On est aujourd'hui le mercredi 7 mai, ainsi que le 7 hier et au lendemain de ce jour merveilleux qu'est Yom Ha'atzmaout, nous reprenons notre cours, un petit cours aujourd'hui, très soft, et avec une légère pointe de tristesse, mais avant, je vais dire pourquoi, le cours sera pour la refoua shelema de Shusha Bat Zmirda. Je disais une petite pointe de tristesse parce que véritablement, nous terminons vraiment cette fois-ci, pas aujourd'hui, mais là c'est encore une question de deux cours, peut-être trois cours, et on termine le roi David. On est aujourd'hui dans un nouveau livre, on est dans Melachim Aleph, on a terminé Shmuel et on a commencé Melachim. Il s'avère que la dernière histoire concernant le roi David se trouve au tout début du livre des rois. Pourquoi? Les commentaires expliquent pourquoi n'a-t-on pas terminé la vie de David dans le livre de Shmuel? Ouais. Pourquoi terminer la vie de David, la dernière histoire le concernant, dans un nouveau livre? Alors, les commentaires expliquent parce que comme cette histoire, la dernière concernant David, est directement liée à Shlomo, à Salomon, puisque justement c'est la dernière tentative de révolte pour empêcher et que Shlomo vienne au pouvoir. Donc bien que c'est encore du vivant de David dans la mesure où c'est lié au roi Salomon, c'est la raison pour laquelle cette histoire fait déjà partie des rois, parce que effectivement le livre des rois parle de tous les rois après le roi David, et le premier des rois après le roi David est le roi Salomon. Donc ça c'est une chose. Et donc on va lire aujourd'hui ce que je vous propose. On est tous un petit peu encore sonnés par l'intensité de ce que nous avons vécu hier. Et donc je vous propose, comme l'histoire est relativement longue et pas tout le monde la connaît véritablement, l'interprétation on va la faire petit à petit aujourd'hui, mais on essaiera d'extraire véritablement le message de cette histoire, je pense plutôt la semaine prochaine, et c'est en principe la semaine prochaine qu'on terminera complètement l'histoire du roi David, malheureusement. Mais aujourd'hui, on va surtout se contenter de lire l'histoire, il y a une quinzaine, une vingtaine de versets, pour se mettre un petit peu dans l'esprit du cours, et bien sûr avec quelques petits commentaires malgré tout, ici et là, car c'est absolument impossible de se contenter uniquement de lire et de traduire. Voilà comment commence le livre des rois. Va'amelech David zaken baba yamim. Le roi David était très vieux, il avait un âge avancé, bien qu'il n'avait que 70 ans. Va'yechasu'u babgadim velo yichamlo. On a essayé par tous les moyens de le couvrir avec des couvertures, mais rien n'arrivait à le réchauffer. Il était en train de mourir de froid. On sait que les personnes qui sont très 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 âgées, 90, 95, 100, etc., ont ce problème de refroidissement intérieur. C'est très grave pour un homme de 70 ans même à l'époque. Mais comme expliquent les commentaires, et on l'a lu ensemble, on n'a même pas besoin des commentaires, il a traversé tellement de souffrances cet homme-là, et surtout vers la fin de sa vie, tellement de révoltes, tellement de rébellions. Il n'a même pas terminé d'étouffer une révolte qu'il doit déjà... Et s'affronter à une autre, la révolte avec Avshalom, après la révolte avec Sheba ben Bechi, et maintenant, dans les derniers jours de sa vie, encore une révolte avec son propre fils, sans compter tout son combat avec Shaoul, sans compter les difficultés d'être un roi, de diriger un pays, et sans compter le fait que toute sa vie, de toute façon, il s'est battu aussi contre les ennemis d'Israël. Bekitsur, il arrive à l'âge de 70 ans, il est vieux comme une personne qui a déjà passé 100 ans. Donc, velo yichamlo, et rien n'arrivait à le réchauffer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On le laisse mourir de froid. Le problème est, c'est que chaque seconde, chaque minute de la vie d'un homme est importante. Ne parlons pas de l'importance de chaque minute, de chaque seconde de la vie du roi David. Donc, ses serviteurs sont extrêmement tracassés. Comment faire pour le maintenir en vie? On va voir ce qui est extraordinaire. C'est que finalement, ils vont trouver une astuce qui, vue de l'extérieur, nous fait mourir de rire. Et on a un petit peu honte de le lire. Mais bon, on va essayer de commenter. Mais quoi qu'il en soit, cette astuce trouvée par les serviteurs, c'est ce qui va sauver le peuple juif. Avec tout son ridicule, car s'il était mort... une heure avant, eh ben, il n'aurait pas pu faire en sorte que ce soit son fils qui régnerait Et si ce n'était pas son fils, enfin Shlomo, qui avait été nommé roi à sa place, c'était la fin d'Israël, puisque tout le projet s'écroulait. En tous les cas, bon, on n'y est pas encore. Vayom Rulo Avadav, ses serviteurs lui disent, Yevakshula Doni Ameler Nahara Betula, on va chercher une jeune fille. Qui n'a encore jamais été avec un vierge. Homme, une vraie jeune fille, vierge. Ve'amda lifne ameler, et elle se présentera au roi. Va'te'ilo sochenet, et elle sera là à ton service. Ve'shachva bechekecha, elle dormira dans tes bras,
à tes côtés,
mais sur toi. Ve'cham la doni ameler, et c'est ce qui te réchauffera. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est terrible, mais en tous les cas, c'est marqué.
C'est une bonne idée.
Et donc, c'est une bonne idée, bien sûr. Bon, si vous vous lâchez, vous pouvez y aller. Je veux dire, on n'est pas enregistré, personne ne nous entend, allez-y. Je veux dire, bon, n'oubliez pas quand même qu'on parle du roi David, malgré tout, avec un minimum de respect, mais disons que, voilà. Donc, Vécham l'a donné à Meler. Je vais juste ouvrir une parenthèse qui m'intéresse, parce que celle-là, vous la connaissez, je vous l'ai déjà fait des milliers de fois. Vous pouvez me trouver, s'il vous plaît, quelque part dans l'histoire de l'humanité, un livre de religion, un livre de philosophie, un livre de pensée, un livre de tout ce que vous voulez, qui se permet de parler de ces héros d'une manière à ce point ambiguë. Vous imaginez dans le Coran, vous imaginez dans les évangiles, quand vous parle de Jésus d'une manière qui ferait tout le monde. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que par définition, on fait tout pour que celui dont on parle comme étant le modèle, c'est forcément le super-héros, le Superman, le super tout ce que tu veux. Si c'est un livre de religion, c'est le super-dieu. Si c'est un livre d'argent, c'est le super-riche. Si c'est un livre politique, c'est le super-dirigeant. C'est toujours le super. C'est quand même intéressant, vous ne vous rendez pas compte. Allez, vous voulez que je vous la fasse vraiment comme je sais faire de manière naturelle? Dis-moi quand j'ai un texte, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est la seule preuve que j'ai que la Torah est vraie. Des versets comme ça. Parce que si c'est les hommes qui ont écrit la Torah, jamais dans l'histoire humaine, des hommes qui inventent des récits se permettent de ridiculiser à ce point ceux qui sont censés être les héros du livre. Mais comme c'est Dieu qui écrit, et que lui ne cherche pas à plaire, et ne cherche pas à séduire, et ne nous fait pas passer des récits pour des lanternes, puisque ce qu'il dit est vrai, il n'hésite pas à nous raconter les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce qu'il fait confiance en des hommes comme moi et vous, qui savons comprendre et expliquer, pour ne pas tomber dans le piège de l'apparence et du ridicule. Mais le fait que la Torah ose dire des choses pareilles, c'est la preuve que ce n'est pas un homme qui l'a écrit. Parce que jamais un homme n'aurait pu écrire une chose pareille sur Jésus, sur Mahomet, sur qui vous voulez. Jamais. Dans aucune religion au monde. Donc, je ferme la parenthèse, et tout ça pour vous dire avec le plus grand sérieux que cette histoire est donc très 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 sérieuse. Et j'ai déjà commencé à vous le dire. Igdam tire foi la maka. J'ai déjà donné la réponse avant. Notre sourire, qu'on n'ose pas vraiment laisser éclater. Parce que, comme vous allez le voir, cette histoire de cette jeune fille qui a maintenu en vie le roi David encore pendant quelques heures, encore pendant quelques jours, c'est ce qui a permis au roi David d'être conscient qu'on était en train de lui voler la royauté pour la détourner vers une direction qui était la fin de son, qui est la fin du peuple juif. Parce que si ça n'avait pas été Shlomo, tout le projet était bien sûr remis en cause, c'est ce que les forces contraires constamment essayent de faire. Et donc même s'il est absolument évident que les serviteurs ne savaient pas à quel point leur astuce apparemment ridicule et un petit peu honteuse, allait véritablement servir, ce qui est sûr, c'est qu'il savait, quoi qu'il en soit de manière très générale, que chaque heure de vie du roi David est une nécessité inimaginable, Et donc, s'il faut pour ça utiliser quelque chose qui effectivement va faire jaser les gens et que j'imaginais ce que le Carnage Enchaîné va écrire, ce que France Dimanche va écrire, on va voir des photos, des trucs de la belle jeune fille rentrée dans la chambre du roi David avec des petits potins et des petits commentaires et quel débauché, quel truc, quel machin. Les serviteurs savent tout ça. Évidemment qu'ils savent tout ça. Mais les serviteurs disent, c'est pas parce que le monde est comme il est qu'on doit priver le roi David d'encore d'une heure ou deux heures ou trois jours de vie. Et donc, mais ça je commenterai un peu plus quand on aura avancé. Et donc, Veshachva bechekecha vecham l'Adoni Ameler, elle dormira dans tes bras et tu auras chaud. Veivakshu nahara yafa bechol gevul Israël. Ils ont cherché une très belle femme dans tout, enfin une très belle jeune fille dans tout le territoire. Vaimsu et Avishag Ashunamit, ils ont trouvé Avishag Ashunamit, Vayavi Ota la Meler, ils l'ont amené au roi. Veanahara yafa ad meod. La jeune fille était extrêmement belle. Alors là, on est droit de se poser une question. Qu'on amène une jeune fille pour qu'elle soit avec lui et que ça le réchauffe et qu'il ne meure pas et qu'on fasse tout pour essayer de le maintenir en vie. J'oserais presque dire que cette image de la jeune fille qui le maintient en vie d'une manière un petit peu artificielle, ça fait penser à tous ces tuyaux et tous ces trucs auxquels on branche quelqu'un aujourd'hui pour le maintenir encore en vie, encore quelques heures. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas tous ces branchements-là. Alors finalement, ils ont tout simplement fait ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'appelle la médecine, et à cette époque-là, ils n'avaient pas autre chose pour essayer de maintenir en vie quelqu'un qui est en train de mourir de froid. Donc ça, je peux comprendre. Le problème, c'est pourquoi préciser qu'elle était la plus belle de tout le pays. Ve'anaharan yafa ad me'od. Elle était extrêmement belle. Mot à mot, elle était la plus belle de toutes. Donc, Miss Israël, ou peut-être Miss Monde, de son époque. En quoi c'est tellement importante? Là aussi, les commentaires disent, n'hésite pas, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit quelque chose de très très important juste avant que je ne peux pas répéter, l'explication est la même. Parce qu'effectivement, ils cherchaient à réveiller dans le roi, ils n'ont pas honte de le dire, ils cherchaient à réveiller en lui son côté masculin, de manière à ce qu'il se réchauffe. Et donc, la Torah n'hésite pas à le dire. Ah, ça a l'air de, et ça va faire jaser, etc., etc. Mais on s'en fout ce que les gens pensent. On est prêt à payer le prix de toutes les calomnies et de toutes les méchancetés qui vont sortir encore une fois sur le roi David. Mais le roi David, on ne le laisse pas partir une heure avant son temps. Et tant pis si les gens parlent. Donc, je n'explique pas encore plus profondément, comme j'ai annoncé au niveau du cours, car on a beaucoup de versets à lire aujourd'hui.
En plus, que David était, il paraît que c'était un homme très très beau, parce que dans le Talmud, c'est marqué qu'il ressemblait à Yaakov Avinu, qui pnei Adam Arishon.
Bah, c'était un homme très très beau, c'était un homme très homme, très viril, très homme.
Alors, pour un homme très beau, on ne donne pas une mochetée, on cherche la plus belle.
Non, non,
il faut dire que Michal aussi, quand il
avait. Non.
Non, pas Michal, quand il avait.
C'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là.
Une belle femme.
Comme c'était un homme, on a commencé le texte en disant qu'il était mort pratiquement, d'accord? Puisqu'il était en train de mourir de froid. Donc, c'est clair qu'ils ont cherché. S'ils avaient. Les commentaires posent une question simple. Et pourquoi les serviteurs n'ont pas demandé à ses propres femmes de se faire les plus belles possibles et de venir le réveiller? Les commentaires disent de la manière la plus homme possible. Parce que ces femmes, il les connaissait déjà. Il est dans un tel état d'épuisement que ces femmes ne pouvaient plus susciter chez lui le moindre intérêt pour le féminin. Tout simplement parce que une chose dont on est habitué, si on n'a plus les forces, elle ne nous émeut plus. David est dans un état d'épuisement total. Donc ils ont cherché un stratagème. Comment réveiller en lui la dernière étincelle de virilité, de masculin qu'il y a en lui? Ces femmes, ça ne marchera pas, il les connaît depuis des décennies. Donc ils ont cherché quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui sort du commun, parce que c'est nouveau, et en plus qui est d'une beauté inimaginable, en espérant que ça allait réveiller peut-être, même chez cet homme épuisé et agonisant, ça allait réveiller justement son côté masculin qui avait toujours été très 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 fort chez lui, comme on le sait, avec Bathsheba, etc. Et donc, et ils ne se sont pas trompés. Parce qu'effectivement, en voyant Avishag, il s'est rappelé biologiquement, c'était pas lui qui y pense, mais son corps s'est rappelé qu'il était un homme, ça lui a redonné à nouveau le sang à nouveau circulé dans ses veines. À ce moment-là, il s'est à nouveau réchauffé et il a repris d'une certaine manière conscience parce qu'il était complètement agonisant, comme on va le voir. Et donc elle s'est mise à son service. Et elle l'a donc accompagné. Mais le verset précise, mais le roi n'a jamais eu un rapport avec elle. Pourquoi ? Il y a différents commentaires. Ceux qui vous voient dans les détails, vous verrez. Il y a les commentaires les plus classiques, j'en pourrais dire les plus... Pshat disent tout simplement parce qu'il avait déjà 18 femmes. Et d'après notre tradition, un roi ne peut pas avoir plus que 18 femmes. Donc s'il l'avait connue réellement, ça aurait été la 19e et ça lui était interdit, comme on le sait dans nos sources talmudiques. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais un roi, même si à l'époque de la polygamie, un roi pouvait avoir, et c'est pour ça que son fils Shlomo avec ses 1000 femmes a terriblement fauté, on verra en son temps comment qu'il a pu aller contre une halakha apparemment connue de tous. Mais quoi qu'il en soit, lui, David, respectait cette loi-là, donc il ne pouvait pas se permettre d'avoir plus de 18 femmes. Elle était la 19e, aucune de ces 18 femmes était morte ou divorcée. Et donc, il n'a pas pu aller avec elle. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante que la première, c'est qu'elle est arrivée à susciter chez lui un certain réveil masculin, mais pas au point d'avoir une relation avec elle, parce qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait techniquement pas. Il était malgré tout épuisé comme un homme de 120 ans. Mais c'est ce que ses serviteurs voulaient. Ils voulaient que au moins un petit peu de désir se réveille chez lui pour que au moins le sang recommence à circuler et que son corps se réchauffe. Et donc peu importe la première ou la deuxième explication, mais ce qui est sûr c'est que quoi qu'il en soit, il ne l'a pas touché. Et la deuxième explication met en évidence surtout ce qui est très important, c'est qu'il a retrouvé, quoi qu'il en soit, une certaine maîtrise de lui-même. C'est ce qui va lui permettre après de pouvoir faire face à la dernière révolte contre lui et contre son règne. Parce que s'il avait été dans son lit agonisant, etc., comment voulez-vous qu'il aurait pu faire face à ce qu'on va commencer tout de suite, maintenant tout de suite verset 5. Va Adonia ben Chagit, Adonia, son plus grand fils après Avshalom qui était déjà mort, Adonia ben Chagit, mitnassé, quand il a vu dans quel état était son père, il s'est dit, Ani emlor, je vais prendre la royauté. Il s'est fait un char, il s'est constitué une petite armée, et 50 serviteurs qui couraient devant lui et qui disaient vive le roi, vive le roi. Juste encore un verset, c'est important. Qui était cet enfant? On n'en a jamais entendu parler. Velo atzavo aviv. C'était un enfant, on pourrait dire, le modèle parfait. Son père ne lui avait jamais rien reproché. Ce genre d'enfant, comme on aime tous, entre parenthèses, qui pousse tout seul. Oui, papa, oui, maman. Va à droite, va à gauche. Fais de bonnes études. Un garçon tranquille, une fille tranquille, pas de problème. On n'a que des compliments. Félicitations chaque année. Alors, donc, il n'y a pas de reproche à lui faire. Velo atzavo aviv meyamav. Jamais son père ne lui avait fait le moindre reproche. Intéressant, hein, le bon enfant qui va planter un coup de couteau dans le dos de son père. Là aussi, il y aura beaucoup à expliquer. Les morts. Son père ne lui avait jamais dit Madua kacha asita, pourquoi tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça. Il n'y avait jamais rien à lui reprocher. Il était parfait. Vegamu tov toar meod. En plus, c'était quelqu'un d'extrêmement beau, mais dans le sens une noblesse. Toar, c'est pas le physique. Il était peut-être très beau aussi, mais toar, il avait un comportement d'une noblesse inimaginable, cet enfant-là. Veoto yalda achari Avshalom. Et c'était lui qui était né tout de suite après Avshalom. Ça veut dire que c'était le Béro, puisque Avshalom était mort pendant la révolte. Donc, il se sentait légitimement le futur roi d'Israël. Donc, là aussi, c'est intéressant parce que la Torah, à part que je vais expliquer pourquoi justement Adonia choisit ce moment pour se révolter, mais là aussi, constamment avec le roi David, ce jeu d'ombre et lumière, on avait déjà eu aussi la même notion, la même chose avec les premiers grands ennemis de David, Shaoul, Doeg. Nos maîtres disent pourquoi Shaoul s'est écroulé d'une manière tellement tellement dramatique, faire des choses tellement horribles pour un homme qui apparemment au départ était... On dit que quand il a été nommé roi, il était comme un enfant de 1 an qui n'avait jamais fauté. Nos maîtres disent que c'était un tzaddik gamour, un juste parfait. Enfin, pas si parfait que ça, mais parfait, jusqu'à ce qu'il commence à... Nos maîtres disent comment il a pu s'écrouler. Nos maîtres répondent pourquoi il était trop parfait. Il était trop parfait. J'explique pas encore. Je vais maintenant à Doeg, à Achitophel. Les deux seuls immenses grands d'Israël sur lesquels on dit n'ont pas de part au monde futur. Nos maîtres disent que tous les maîtres de leur temps, ils n'ont pas vraiment vécu tout à fait à la même époque. Doeg et Achitophel, il y a un petit peu de quelques années de différence entre les deux. Mais peu importe. Nos maîtres disent que chacun à son époque était comme un palmier par rapport à tous les maîtres d'Israël qui eux n'étaient que comme l'herbe qui pousse au pied du palmier. Nos maîtres disent que Toratam ke migdala porear beavir, la Torah de Doeg et Achitophel était comme une source, comme une forteresse qui plane dans les airs. Ça veut dire qu'elle a deux qualités, non seulement c'est une forteresse, personne ne pouvait aller contre leur Torah, mais en plus... Elle plane dans les airs, elle est inaccessible, elle est tellement grande, tellement immense que personne ne pouvait s'approcher d'eux. N'oublions pas que Doeg, à l'époque, quand il a dit que David et toute la lignée de David n'étaient pas juifs parce que Ruth ne pouvait pas se convertir, il a demandé à tous les maîtres d'Israël de se poster devant lui, lui seul contre tous, et il les a tous fait taire les uns après les autres. Donc, c'était des gens redoutables. Bon, maintenant, tout le monde sait qu'on ne devient pas un géant dans la Torah uniquement parce qu'on a une bonne tête. C'est pas les mathématiques ou c'est pas l'informatique où on peut être une crapule mais avoir une bonne tête et devenir un savant. Non, on peut pas devenir un géant de la Torah si malgré tout on n'a pas un minimum de travail sur soi. Donc c'était des gens qui avaient malgré tout travaillé sur eux-mêmes, etc. Comment ils ont pu devenir si grands et après on dit qu'ils n'ont pas de part au monde futur? Nos maîtres disent pareil, ils étaient trop parfaits. Trop parfait, ça ne marche pas dans ce monde. Trop parfait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand tu es trop parfait, ça te monte à la tête. C'est ce qui a marqué ici. Mitnassé, ça lui est monté à la tête. Mitnassé. Il y a quelque chose, il y a une sorte de on pourrait, comment on appelle ça quand il y a un truc dans l'ordinateur qui rentre, qui est un virus. Il y a une sorte de virus dans l'homme qui fait que quand ça atteint le trop, ça pète. D'où on le sait? C'est un commentaire explicite dans le Talmud, que Rashi rapporte d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans Bereshit, sur le verset « Après la création de l'homme, Hachem dit « Veine tov me'od » C'était très bien. Très méode. Les commentaires s'étonnent et disent les cinq premiers jours de la création, après chaque jour, il est dit Veine Tov. Il n'est pas dit méode. Pourquoi pour la création de l'homme, il est dit très bien et pour les autres créations, il est dit bien? Nos maîtres disent le très bien vient rajouter qu'avec l'homme est né aussi le Yetzerara, le mauvais penchant. Alors bien sûr, les commentaires des commentaires s'étonnent et ils disent aux commentaires, les commentaires disent aux commentaires. Attends, c'est une drôle de manière de nous parler de la naissance du mauvais penchant sur l'expression « c'était très bien ». Et si c'est très bien, en quoi ça fait allusion au mauvais penchant? La réponse est ce qu'on dit aujourd'hui. Le mauvais penchant dont parlent les maîtres d'Israël, et c'est une leçon pour le monde que jusqu'à aujourd'hui, ni le monde non-juif et ni le monde juif dans son ensemble l'a compris, trop parfait, ça ne marche pas. Il faut toujours une... légère part d'imperfection, parce que c'est ce qui maintient une certaine dose d'humilité dans l'homme, un certain sens d'avoir besoin de se dépasser, et surtout, c'est la muraille qui le protège de que ça lui monte à la tête. Le problème, c'est la dose de ce Yetzara est très très dangereuse, un peu plus, un peu moins, c'est ce que nos maîtres disent. Nos maîtres disent, il y a une chose dont To Yafé Bemi Uto Vera Be Rabé. Non, Méroubé. C'est pas le mot Méroubé. Bon, traduction en français. Il y a une chose qui est bien quand tu donnes une petite dose et mauvais quand tu donnes une grande dose. Nos maîtres disent Yetzerara. Ah, c'est très difficile. C'est sûr que si je jette un enseignement comme ça, je vais dire les gens vont dire ouais, super, on va danser. On va
Kolam Osif Gorea.
Alors justement, c'est le trop. Tout celui qui rajoute, il enlève. Effectivement. Donc, Alors, quelle est la dose du Yetzer Hara? Quel est le mauvais penchant qui est permis? Et tu livres un enseignement comme ça au grand monde, c'est très difficile. Mais ça fait partie de ce genre d'enseignement qu'on retrouve souvent dans le Zohar, où on voit que souvent, tout d'un coup, Rabbi Shimon s'arrêtait, il levait ses mains vers le ciel, il se mettait à pleurer, et il disait « Oi, malheur à moi si je le dis, malheur à moi si je ne le dis pas ». Ça veut dire qu'il y a des enseignements où tu ne sais pas s'il faut le dire ou pas le dire. Parce que si tu le dis, alors si tu dis que c'est bien d'avoir un petit peu d'Yetzer Hara, tu t'imagines, c'est la porte ouverte à tous ceux qui n'attendaient que ça. Si tu dis aux gens, non, il faut complètement annuler ça, il faut être parfait, c'est la catastrophe. Pire que la première, tu vas créer des Shaoul, des Doeg, des Achitophel, des gens qui vont se prendre pour le bon Dieu. Et qui vont non seulement passer complètement à côté du projet, mais qui vont se battre contre ceux qui sont dans le projet. C'est tous mes cours sur Yom Hatzmaout que j'ai donné pendant une semaine. Ou jusqu'à aujourd'hui, on sait très bien que c'est justement ceux qui se croient l'élite d'Israël qui n'ont rien compris au processus et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à critiquer, à humilier, etc. Parce que justement, ça leur monte à la tête le fait qu'ils sont comme ils croient être, parce qu'ils ne sont pas du tout comme ils montrent qu'ils croient. Ce qu'ils sont et qu'ils ne sont pas, etc. Peu importe. Mais bon, on est fatigué de... On ne peut pas soigner tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. C'est les Doeg, les Achitophel de notre génération. Ceux qui sont toujours en train de critiquer parce que regardez tous les défauts qu'il y a. Ben oui, le roi David, il est plein de défauts. Quand il affronte, lui amène une jeune fille, elle se met dans son lit, Asma. Asma. Très bien. Asma. Eh ben oui, c'est tordu. D'accord, mais c'est quand même du roi David que sort le Mashiach. C'est pas ni de Shaul, ni de Doeg, ni de Achitophel. David, c'est un homme, il affronte, ben on lui amène une femme, elle le réchauffe, qu'est-ce qu'il y a? Ah, maintenant, XY vont entendre ce que je dis, ils vont s'amener 10 femmes, même quand ils sont virils et forts. Non, mais je veux dire que celui qui veut se tromper, se trompe, que celui, de toute façon, il n'a pas besoin de moi pour se tromper. Il aura un argument de plus pour faire l'idiot, celui qui veut se tromper. Mais c'est ce que dira Michel Bar Yochai. Oy me yotzri, oy me yitzri. Je dois avoir peur de mon créateur si je suis le Yetzer Hara, et j'ai peur du Yetzer Hara si je suis mon créateur. En hébreu, c'est le même mot pratiquement. Yotzri, Yitzri, c'est un jeu de mots. Oy me Yotzri, oy me Yitzri. Malheur à moi si je le dis, malheur à moi si je le dis pas. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. La Torah s'amuse avec ces jeux d'ombre et de lumière. David, le pauvre type, celui qui a passé sa vie à faire des bêtises, et surtout avec les femmes, Bathsheba, maintenant la jeune fille, etc. Qu'est-ce que vont penser les gens? Vous imaginez les petits potins? Quand même, il n'est pas si sénile que ça, David, hein, 70 ans, il a la pêche, hein, t'as vu ce qu'on lui a amené, hein. Oh, quel canon. Non, tu veux parler, parler. Mais n'empêche que c'est David. Et tout de suite après, on nous montre quoi? L'exemple du type parfait. Adoniaou, Yafetoar, waouh! Bon, il a quand même eu la chance de mettre un enfant bien au monde, ce David. Lui, il est tordu, mais bon, la pomme est tombée très loin de l'arbre. Hein. La preuve, c'est quelqu'un de très très bien, vous vous rendez compte, hein? Jamais son père n'a pu ouvrir la bouche contre lui. Le type parfait, tout le monde, celui qu'on veut tous pour roi, puisque l'homme est toujours dans ses fantasmes en train de chercher le modèle de la perfection. Il n'y a qu'au moment où le monde va voir qui est le Mashiach et qu'ils vont se rendre compte que le Mashiach c'est tout sauf ce qu'on attendait, alors ils vont dire, ouais, c'est ça. Oh, ben non, nous on attendait un truc parfait, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, interroger n'importe qui dans la rue, vous dites, le Mashiach il ressemblera à quoi? Je ne peux pas dire. Un type, il aura, comme tout le monde, il ira aux toilettes, des fois il aura des gaz aussi, des diarrhées, constipé. S'il mange quelque chose qu'il n'aime pas, il vomira comme tout le monde. Ça lui arrivera de rôter à table. Quoi, vous ne croyez pas? Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est le Mashiach? Un homme. Mais non, on n'en veut pas de ce modèle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes cherchent finalement à vénérer leur fantasme. Ils ne cherchent pas la vérité. Et donc, regardez ce texte merveilleux. On vient nous parler du roi David, encore une fois, je me répète, qui a 70 ans, on lui met Miss Monde dans son lit. Mais lui, c'est le roi David duquel sort le Mashiach. Et puis tout ça à côté, mais on a le modèle de la perfection. Et donc, Veloat Savo Aviv Meyamav, lui, son père ne l'a jamais réprimandé. Vegamu Tov Toar Meod, un homme d'une perfection extraordinaire. Regardez maintenant, vous avez compris, Meod. Lui, il est méode. Celui qui est méode, c'est lui qui tombe dans le mal. Il était trop parfait, lui. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que fait un homme trop parfait? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le Ramatkal, comment le chef d'état-major, Yoav, qui est son oncle, absolument. Ben Tsruya, oui, puisque... Non, c'était Yoav est le cousin germain de David, puisque les deux sœurs, les deux mères sont sœurs. Donc,
Tsruya, c'est la sœur de Ishaï.
Donc Yoav est cousin germain avec David, et donc c'est le petit-neveu. Puisque Yoav est le cousin germain de son père, c'est le cousin germain de David. Donc c'est ce qu'on appelle un petit-neveu en français, si je ne me trompe pas. Vimeviatar, donc il va parler au chef d'état-major Yoav, Vimeviatar Akon, il va parler avec le Kohen Gadol qui exerçait à cette époque-là Eviatar, donc il prend les deux autorités, la militaire et la religieuse, ça va toujours ensemble, bien sûr, quand il y a un complot, toujours les curés sont du côté du pouvoir. Vimeviatar Akon, Vayazwahare Doniaou. Et ils sont d'accord de se mettre du côté d'Adoniaou. Pourquoi ils se mettent du côté d'Adoniaou? Attends, je ne comprends pas. Yoav a déjà soutenu la révolte de Avshalom contre David. D'accord. Yoav a soutenu... Non, ce n'est pas Yoav qui a soutenu la révolte de...
C'est Avishai, comment il s'appelle? Achim, son frère.
Oui.
Ben
oui, c'est le contraire. Yoav sait que David lui en tient extrêmement rigueur. Pourquoi? Parce qu'il a tué Avner. Et surtout parce qu'il a tué Avshalom. C'est le contraire. C'est lui qui a défendu David. Il a tué Avshalom. Et donc Yoav sait que David lui en veut terriblement. Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant encore de soutenir Adoniaou? Et alors que, et surtout la question est sur Adoniaou, alors que Adoniaou, Yoav, Eviatar, le Kohen, tous savent ce que le prophète Nathan a dit. Qu'est-ce que le prophète Nathan a dit? Ki bincha Shlomo uimlor acharecha. Que c'est Shlomo ton fils qui régnera après toi. Qu'est-ce qui leur monte à la tête? Qu'est-ce qui se passe? Alors les commentaires expliquent. Adoniaou, premier niveau d'explication pour l'instant, c'est parce que justement, sa perfection lui est montée à la tête. Mais les deux autres, Yoav, parce qu'il fait un calcul très simple. Si je ne fais pas quelque chose pour pousser à la venue du prochain roi, si le prochain roi, est, donc parmi les enfants de David, ne se sent pas redevable, automatiquement, je risque d'être éjecté pour tout le mal que j'ai fait à David, en particulier de lui avoir tué l'un de ses fils. Certainement que les frères se vengeront, et une fois qu'ils arriveront au pouvoir, ils me repousseront, ou ça va peut-être pire. Mais si c'est moi qui agis pour pouvoir amener le nouveau roi, qui n'avait en principe pas de chance, c'est moi qui l'aide à arriver au pouvoir, il me sera reconnaissant, et il ne me fera rien parce que j'ai tué son frère, Avshalom. Donc c'est le calcul. Et Eviatar, quel est son calcul? Nos maîtres rapportent que Eliviatar était un descendant de Élie. Vous vous rappelez Élie? Ce fameux Kohen Gadol à l'époque de Shmuel, c'était le premier maître de Shmuel, dont les enfants s'étaient très 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 mal comportés, et le prophète était venu annoncer à Élie que sache qu'un jour la Keuna serait retirée de ta descendance pour être donnée à une autre lignée qui, elle, était pour l'instant complètement en veilleuse pendant des siècles, la lignée de la Keuna qui sortait de Pinchas. Il y avait deux lignées de Keuna dans le peuple juif, celle qui sortait de Elazar, fils de Aaron, et celle qui sortait de Pinchas, petit-fils de Aaron. Et le problème, c'est que depuis Moshe, la Keuna avait été donnée à Elazar, et de père en fils pendant pratiquement 500 ans, tous les Kohanim Gdolim sortaient obligatoirement de la lignée venue de Elazar. Bien que, à l'époque, la Torah avait promis la Keuna à Pinchas, en tout cas la Keuna Gdola, elle ne lui avait encore été jamais donnée effectivement. Mais il y avait une tradition dans notre peuple que le roi qui construirait le temple nommerait en tant que Kohen Gadol un Kohen descendant de la lignée de Pinchas. Et tout le monde savait que celui qui était destiné à construire le temple était l'héritier de David, parce que David, 19 mètres, avait passé entre autres une grande partie de sa vie à préparer le terrain à la construction du temple. N'oublions pas que c'est lui qui avait trouvé le futur emplacement du temple, l'un des derniers cours. Et surtout, il avait amassé or, argent, cuivre et tout ce dont on a besoin pour construire le temple pendant des décennies dans un endroit spécial que tout le monde connaissait, et c'était marqué sur la porte de cet endroit, matériaux pour le futur temple. Donc tout le monde s'attendait à ce que le temple soit construit dès l'héritier de David. Donc Éviatar savait très bien que si le temple est construit par l'héritier de David, automatiquement, lui et toute sa lignée seraient destitués. Et donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais si j'aide le futur roi à devenir roi, un roi qui normalement n'aurait pas dû l'être, il me sera reconnaissant et il trouvera toujours une astuce pour que cette tradition ne s'accomplisse pas ou soit repoussée, peu importe, et je puisse rester Kohen Gadol quand même. Être à deux doigts d'être le premier Kohen Gadol du temple et passer à côté, qui laisserait tomber une chose pareille? Et donc les deux avaient un intérêt. Yoav, la peur des répercussions pour avoir tué Avshalom, et sans doute la destitution de son rôle de chef d'état-major, et le Kohen Gadol la même chose. Les deux étaient motivés par le même intérêt, rester au pouvoir, tout simplement. Et le roi qui voulait se faire aider, le candidat à la royauté, il se fait aider, et lui aussi, quel est son intérêt? Le pouvoir. Les trois sont motivés par le même problème, le pouvoir. Et pourtant, ils n'ont pas entendu ce qu'a dit Nathan, qui, Shlomo Bincha, ça sera Shlomo et personne d'autre, c'est un prophète quand même. Et à cette époque-là, on n'a pas vu que les prophètes n'étaient pas écoutés. C'est seulement les rois idolâtres qui vont commencer non seulement à ne plus écouter les prophètes, et même à les poursuivre, et voire même les tuer. Mais à cette époque-là, on n'a jamais un seul exemple dans toute l'histoire de ces 500 années qu'on vient de parcourir depuis l'époque de Josué, jusqu'à maintenant, c'est à peu près 500 ans, on n'a jamais vu que le peuple juif va contre les prophètes. Ce n'était pas encore habituel. Et là, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que le pouvoir aveugle complètement. Et même des gens qui sont quand même d'un sacré niveau. Surtout Adoniaou. On continue. Ve Tzadok a Kohen, ou Benyahu ben Yoyada, Tzadok, qui lui va devenir effectivement le prochain Kohen Gadol, parce qu'il est de la lignée de Pinchas, c'est celui dont Eviatar avait peur. Ve Nathan Anavi, Nathan le prophète, à qui on doit tous de savoir qui est censé être le prochain roi. Ve Shimi, Ve Rei, Ve Agibori, mais tous les véritables et fidèles serviteurs qui étaient toujours du côté de David, Asher et David, Loayou im Adoniaou, ceux-là n'ont pas été invités par Adoniaou, parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne participeraient pas à cette farce. Ve Isbar Adoniaou Tsonu Bakaru Meri im Even Azochelet, et la même chose, même processus que son frère Avshalom, il se nomme, il invite tout Israël, en tout cas ceux qui veulent, à un grand banquet, une grande fête, où on est censé fêter sa royauté. Asher etzel ein rogel, vaikred kol echav ben ameler, il a appelé tous ses autres frères, sauf Shlomo, ou le chol anshe Yehuda et tous les princes de la tribu de Yehuda, avde ameler, ve et Nathan anavi ou Benyahu, etc. à son avis, ve et Shlomo arrive l'okara. Et son frère, il ne l'invite pas. On continue encore quelques versets. Vayomer Nathan el Batsheva. Nathan se rend compte de ce qui se passe, le prophète. Tout de suite, il va chez Batsheva. Em Shlomo, la mère de Shlomo, donc celle qui doit normalement voir son fils régner. Les morts, elle lui dit, Allo Shamat, est-ce que tu as entendu ce qui est en train de se passer? Ki malach Adoniaou ben Hagit va donner nous David loyada. David ne sait pas ce qui est en train de se passer, que Adoniaou, parce que lui, bon, il vit dans sa pièce complètement fermée, il est agonisant, et il a encore un petit peu de goutte de sang qui lui coule dans les veines grâce à Hagit, et c'est tout ce qui lui reste. Il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dehors. Personne ne rentre dans sa chambre, surtout quand il y a une jeune fille qui s'y trouve. Ve'ata lechi atzechana etza. Je vais maintenant te donner un conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Umalti et nafsher, afin que tu puisses sauver ta vie, ve'et nefesh biner shlomo, et la vie de ton fils Shlomo, car Nathan lui explique, c'est absolument évident, que si Adoniaou arrive à régner, dans la mesure où Adoniaou sait qu'il n'était pas destiné à devenir roi, la première chose qu'il va faire après être devenu roi, c'est quoi? C'est éliminer, bien évidemment, tous ses concurrents. C'est intéressant. Ça veut dire que finalement, celui que sur lequel la Torah nous dit qu'il était parfait, qu'il était d'une noblesse extraordinaire, que jamais son père lui avait fait le moindre reproche parce que ce n'était pas nécessaire, Nathan, qui est quand même un prophète, et on voit pas que Bathsheba l'envoie balayer en disant tu exagères, c'est Stam du Lashon Hara. Elle lui dit quand même, sache que cet homme-là, il est sans scrupules. Le jour où il arrive au pouvoir, il tue donc la femme de son père et il tue son frère pour garder le pouvoir. On continue encore un petit peu, je vais commencer à commenter. Les Riou Boriel Ameler, va donc chez le roi David vers Martelav et rappelle-lui. Allo ata Adoni Ameler nishbata la matecha, tu as quand même promis les morts en me disant que Shlomo ben Erim lo hara et que c'est Shlomo qui régnera. Ve ou yeshev al kisi ou madoua molach Adoniaou, et pourquoi c'est Adoniaou qui est en train de prendre la couronne? Ve iné, et sache, lui dit Nathan, odar medaber et sham, pendant que tu seras en train de lui parler, il m'a l'air, moi je vais venir comme si je venais d'une manière improvisée parce que moi aussi j'ai entendu ce qui se passe. Vani avo acharayir, je viendrai juste après toi, ou miletie devarayir, et je compléterai, je confirmerai ce que tu dis. Vatavo Bathsheba et la Meler, Bathsheba rentre chez le roi, achadra dans sa chambre. Vameler zaken meod, on répète que le roi était extrêmement âgé, dans le sens épuisé, il bougeait pratiquement pas. Vavishag ashunamit mesharet ameler, et Avishag était en train de servir le roi. Vatikot Bathsheba v'tishtachu la meler, elle rentre et elle se prosterne devant le roi. Vayomer amelech malar, et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Vatomer lo Adoni, et elle lui raconte toute l'histoire. On va s'arrêter là pour l'instant et je vais commenter un petit peu. On a encore 5, 6, 7 versets à voir au niveau du texte, mais pratiquement l'essentiel est dit, puisque la suite, je me contenterai de vous la dire oralement. Vous imaginez la suite. Bathsheba va raconter à David ce qui se passe. Entre temps va arriver Nathan et David va reprendre ses dernières forces. Il va faire savoir à ses serviteurs, il va sortir de sa chambre, il va remettre ses habits royaux. Il va y avoir un véritable, entre parenthèses, miracle. Pendant quelques heures, le roi David va refonctionner comme un lion. Et il donne des ordres et il commande alors qu'il était véritablement mourant. Et la Torah témoigne du fait que même avec la plus jolie fille d'Israël ou du Proche-Orient, peu importe, excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, dans son lit, il n'arrivait malgré tout pas à avoir de relation avec elle. Ça veut dire qu'il était vraiment, 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 vraiment épuisé. Et malgré tout, là, tout d'un coup, il retrouve ses forces de lion. Et, encore une fois, je vous fais grâce des versets, et il va commencer maintenant à donner des ordres, à dire qu'il faut prendre Shlomo et le mettre sur son cheval, lui mettre la couronne du roi et le cheval du roi pour que tout le monde voit que c'est lui qui est le nouveau roi, parce qu'il est absolument interdit, même pour l'enfant d'un roi en exercice, de monter sur le cheval de son père tant qu'il est en exercice. Et donc, et c'est comme ça que finalement, au dernier moment in extremis, le complot de Adoniaou est déjoué, tout le monde, du vivant, de David, il ne lui reste que quelques heures, il va mourir juste après. Enfin, juste après, il y aura encore une histoire ou deux, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il est en train de mourir et il reprend ses forces. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous faire comprendre ici? Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Adoniaou? Pourquoi Adoniaou, demande le Malbim, entre autres, je ne vais pas donner sa réponse à lui, mais je vais poser sa question. Là, il nous pose une question. Puisqu'il est mourant, qu'est-ce que tu as besoin, toi, Adoniaou, de prendre le risque du vivant de ton père et d'aller contre la prophétie que tout Israël connaît? Et tu ne crains pas que ton père réagisse? Tu ne crains pas ça? Alors il y a deux réponses, une technique et une très profonde. Pourquoi il a attendu? Pourquoi il n'a pas attendu encore un jour, deux jours, une semaine? Quand ton père sera mort, après prends le pouvoir. Si tu me dis, mais parce que Shlomo ne va pas laisser faire, de toute façon il ne va pas laisser faire après et avant, et quand son, et si tu prends le pouvoir du vivant de ton père, tu penses que de toute façon Shlomo et Nathan vont laisser faire? Donc de toute façon tu pars pour combattre ceux qui sont véritablement censés hériter de David. Et ça ne te fait pas peur. Alors attends au moins un petit peu pour ne pas avoir aussi à te battre contre ton père. En plus, c'est pas joli, c'est pas beau. Il vient à peine de sortir d'une révolte d'un autre frère d'Avshalom avec le drame de la mort de Avshalom. Laisse-le au moins mourir tranquillement, ton père. Alors qu'est-ce qu'il lui a pris? Alors, l'explication est absolument incroyable. Il se sert justement de cette situation où son père se retrouve seul avec dans son lit Miss Israël, pour confirmer, sans le dire, mais on se comprend tous, pour confirmer aux yeux de tout Israël, mais vous allez quand même pas laisser, c'est entre autres le Radak qui dit ça, vous allez quand même pas laisser Shlomo, fils de celle qui évoque les problèmes sexuels de mon père, vous allez quand même pas laisser cette lignée-là prendre
le pouvoir.
Vous voyez bien, mon père n'a pas changé. Il est toujours en train de courir après les jupons. Et là, sortez les mouchoirs et pleurez, mes amis. C'est vache quand même. Un si bon enfant. Ton père t'était sa fierté. Et maintenant, tu utilises quelque chose qui sont les ragoûts, les petits potins de France Dimanche, qui sont du niveau des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de salir bêtement ceux qui ne méritent pas d'être salis parce qu'ils restent coincés dans l'apparence. Tu te sers de ce qu'il est facile d'interpréter pour justifier le fait que toi, venant d'une femme bien, tu peux être roi, mais pas Shlomo, venant de Bathsheba, qui est le premier jupon après lequel David a couru. Et vous voyez, hein, 40 ans après, il continue à courir après les jupons, cet homme-là. Donc ça suffit, prenez des gens sérieux pour régner, pas Shlomo, le fruit de la faute. C'est beau de se comporter comme ça avec son père. Surtout que j'ai du mal à croire que, véritablement, Adoniaou pense que son père est un coureur de jupons. Sans doute qu'il doit comprendre l'histoire de Bathsheba, comme on l'a expliqué, et sans doute qu'il doit savoir que, même avec Avishag, c'est pas pour s'amuser, c'est pour ne pas mourir plus tôt que prévu, un point c'est tout. Et à cette époque-là, on n'a pas de machine pour empêcher quelqu'un de mourir de froid. Il n'y a pas d'autre moyen, même si c'est pas très très beau. Alors pourquoi tu fais ça? Le pouvoir lui monte à la tête. Mais c'est quand même incroyable de voir que finalement, David a eu deux enfants, et encore c'est les deux dont on parle, qui lui ont fait quand même des crasses inimaginables. Qui n'ont pas hésité à finalement soit vouloir le tuer, Avshalom, lui violer ses femmes, Avshalom, ou entretenir, ou laisser entretenir des calomnies sur son père, coureur de jupons, tout ça pour pouvoir lui en profiter et devenir roi. Comment ça a pu arriver une chose pareille au roi David? Comment c'est possible? Nos maîtres répondent la chose suivante. C'est une notion dont on a déjà parlé, mais qui est extraordinaire. Le roi David, comme on le sait, en tant que roi incarnant la royauté d'Hachem, le roi David incarne dans sa propre vie, si j'ose dire, la souffrance du maître du monde. Ça veut dire que le roi David sur terre est l'exemple de ce que vit Hachem. Très souvent, Hachem crée des modèles sur terre, humains, quand ces modèles-là sont des modèles de tzadikim, des justes, pour que, d'une certaine manière, le monde se rende compte de ce que lui-même est en train de vivre. Mais quand le maître du monde est calomnié par ses enfants, quand il est traité de tous les noms par ses enfants, ou quand il est traité du pire des noms par ses enfants, tu n'existes pas, tu n'as jamais existé, nous sommes les produits de la rencontre entre deux cellules qui se sont fait un bisou et on est né comme ça. Ou c'est le hasard qui a rencontré l'absurde, et le hasard et l'absurde se sont mariés, puis ils ont donné des enfants, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est pas une calomnie ça? Alors qu'à chaque instant, à chaque fraction de seconde, Hachem nourrit son monde et lui. Ah, c'est vrai, on a des questions terribles contre Hachem. Nous, on ne va pas l'accuser d'être un coureur de jupons, mais on va l'accuser d'être un assassin, Auschwitz, Treblinka, etc. Peu importe. Des critiques contre le maître du monde, ça ne manque pas. Des critiques contre le roi David, ça ne manque pas non plus. Bathsheba, Avishag, effectivement. Mais de la même manière que par ses propres enfants, et les meilleurs parfois, comme Adoniaou, David est trahi, humilié par ses propres enfants, c'est pour nous faire comprendre comment le maître du monde lui-même est trahi, humilié par ses propres enfants qui sont ses créatures. On le traite de tous les noms, on l'accuse de tous les noms, et surtout pour faire quoi finalement? Qu'est-ce que la Torah nous révèle? Qu'est-ce que la Torah nous révèle au sujet d'Adoniaou? Le bon enfant qui ne supporte pas ce père coureur de jupons, mais que lui promet d'être un modèle qui sera la fierté d'Israël, parce que lui c'est pas un coureur de jupons. Mais en vérité, la vraie raison Adoniaou vient, allez, dis-le nous. D'accord? C'est parce que tu veux le pouvoir, c'est tout. La Torah ici nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Malgré toutes les bonnes raisons qu'on a de critiquer Hachem ou de le refuser, la Torah nous signe ici en lettre d'éternité. Celui qui se sert des critiques contre Hachem pour l'abandonner, c'est que tout simplement il cherche le pouvoir. Les critiques, ce n'est qu'un prétexte. Parce que celui qui de toutes ses forces est accroché à Hachem, d'accord, malgré toutes les questions qu'il a contre Hachem, il ne lâche pas Hachem. Parce que dans le fond, le plus profond de son âme, il sait qu'il y a des réponses à ses questions. C avec un C et avec un S. Il y a des réponses, même si lui ne les a pas. Il sait, son âme ressent qu'il y a des réponses. Et il est prêt à attendre. Mais quand dans le fond, tu n'aimes pas vraiment celui contre lequel tu as des questions, tu te sers des questions pour justifier l'abandon. C'est ce que la Torah nous montre. Adoniaou, pourquoi n'a-t-il pas attendu que son père meure pour prendre le pouvoir et se battre contre Shlomo? Parce qu'au contraire, il a profité d'un père quand il a entendu que tout le monde disait « Vous avez vu, hein, ouais, pas mal ça, on aimerait bien, nous aussi, hein, mourir de vieillesse. Hein. » Il a dit « C'est le meilleur moment pour prendre le pouvoir maintenant, parce que comme mon père est en train d'être critiqué, tout ce que mon père a fait dans ce domaine-là va être dans mon intérêt à moi. » Et les gens vont se souvenir de Bathsheba. Ils vont se souvenir que Shlomo, c'est l'enfant de Bathsheba. Et donc, ils vont tous être avec moi. Mais en vérité, toutes ces bonnes questions que tu as contre ton père, c'est uniquement pour prendre le pouvoir. La Torah nous dit ici, un homme qui est vraiment attaché à Hachem, même si Hachem fait des choses qui paraissent être inacceptables, si l'homme, dans son fond intérieur, ne cherche pas à quitter Hachem pour avoir son propre pouvoir, de s'affranchir du joug divin, si un homme, ce n'est pas sa volonté de s'affranchir qui le motive, qui le pousse, la Torah nous affirme qu'aucune question contre Hachem ne suffira pour nous séparer de lui. C'est seulement si tu as des intérêts, et en particulier la recherche du pouvoir. C'est ce qui motive Eviatar, c'est ce qui motive Yoav, et c'est ce qui, bien sûr, motive Adoniaou. Les trois sont liés par la recherche du pouvoir. Maintenant, encore une dernière explication, j'arrête pour aujourd'hui. J'avais dit que le cours serait plus court aujourd'hui. Pourquoi, malgré tout, David doit vivre ce que Hachem vit? Parce que seulement celui qui vit, d'une certaine manière, le problème qu'a Hachem, peut le ressentir de toutes ses tripes et œuvrer, agir pour que le problème soit résolu. Il y a un texte dans le Talmud absolument incroyable que je vais vous expliquer. Le Talmud raconte qu'un jour, deux maîtres se promenaient dans un endroit. Et puis tout d'un coup, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait une immense maison en ruine, desquelles les ruines sortaient encore de la fumée. Elle venait d'être complètement détruite par les Romains. Et l'un des deux s'est mis à pleurer, parce que c'était la maison d'un très très grand maître d'Israël. Il s'est mis à pleurer et il a dit, mais comment est-ce possible? Une maison dans laquelle la voix de la Torah s'entendait 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans la moindre éruption. Et dans la maison dans laquelle, c'est une grande maison, elle était coupée en deux. Une partie, c'était le centre d'études, et l'autre partie, c'était le restaurant du cœur. Il y a déjà 2000 ans, il y avait déjà des restaurants du cœur. On n'a pas attendu Coluche pour en avoir. Une maison, dit le Talmud, où tout celui qui avait faim pouvait venir à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment de l'année, et il sortait rassasié. Un homme, le propriétaire de la maison, qui était en même temps un grand juste, c'est le Talmud qui continue. D'accord. Et je ne sais pas si c'est une parabole à mon avis. Je sais que c'est une parabole pour nous faire comprendre. Qui avait toujours une main dans sa poche pour ne pas faire attendre le pauvre qui se présente et tout de suite lui donner. Même le temps, dit Rashi, de mettre la main dans sa poche, il ne voulait pas faire attendre le pauvre. Ça, je pense que c'est une parabole, mais c'est pour nous faire comprendre la grandeur du personnage. Un géant en Torah, un géant en charité. Une maison comme ça est en ruine maintenant. Mais comment c'est possible? Vous savez ce que lui répond son compagnon d'étude? Miyom shenirchav bet hamikdash nigzera gzera al batehem shel tzadikim shirchavu dayo le'eved liot kerabo. Depuis le jour où Hachem a perdu sa maison, il y a un décret sur toutes les maisons des justes pour que le serviteur soit comme son maître. Quoi, moi j'ai pas de maison, toi tu vas en avoir une. Et les commentaires expliquent, c'est justement parce qu'il est un vrai serviteur, d'ayol eved liot kerabo, qu'il mérite de vivre de ce que son maître vit. Et les commentaires expliquent, et pourquoi c'est tellement important qu'il vive ce que son maître vit. Parce que si toi tu as une belle maison pendant que ton maître n'en a pas, tu vas pas ressentir ce que ça veut dire pour Hachem de ne pas avoir de maison. Quand tu vas aller au Kotel, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ouais, c'est super, aujourd'hui j'ai déjà fait 1000 fois ce coup-là. J'étais au Kotel, c'était super, oh, j'ai mis un petit papier dans les murs, c'était super, oh, j'ai rue, c'est vraiment super. Mais attends, Ribono Shelola, tu viens d'aller dans ce qui reste de la maison d'Hachem, un mur, et tu dis c'était super. Et tu devrais y aller à quatre pattes et repartir allongé sur une civière, de ressentir là. D'accord, mais toi, Bouch Hachem, t'as une belle maison, il te manque rien, toi. Mais comme t'as une belle maison, comment tu veux ressentir que le maître du monde n'en a pas? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Hachem, les vrais justes, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau pour comprendre? Eh bien, il les met dans la même situation qu'est la sienne. Pourquoi? Parce qu'il se dit, comme ça, eux, ils vont comprendre dans quel état je suis, et eux vont agir pour transformer mon monde et me ramener ma maison. C'est extraordinaire. C'est pas n'importe qui mérite d'avoir sa maison détruite. Seulement le serviteur d'Hachem, parce que lui, il comprend pourquoi on lui détruit sa maison. Exactement de la même manière, David a souffert avec ses enfants. Il a eu des enfants qui n'étaient pas du tout à la hauteur du père, parce que Hachem voulait qu'il ressente ce que ça veut dire pour un père de perdre ses enfants. Ce que ressent un père qui est trahi par ses enfants. Pour qu'il ait le réflexe, il dit, mais alors, mais ça c'est ce que vit Hachem. Oh, il faut absolument mettre fin à ça. Et c'est ça Mashiach. C'est celui qui va ramener tous les enfants à leur père. Et d'où on le sait, c'est pas de moi. Qui termine le livre des prophètes en disant ce que je viens de dire? Melachi. Et le cœur des enfants reviendra vers le cœur des pères. Et pourquoi? Parce que David, qui est la racine du Mashiach, a ressenti au plus profond de lui ce qu'est la souffrance d'un père qui est trahi par ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a mis en place tout un système pour justement récupérer les enfants. De là, mes amis, on apprend quelque chose de fabuleux. Ne peut sauver le monde que celui qui vit les problèmes du monde. On l'a déjà dit des milliers de fois. Mais une fois de plus. C'est pour ça qu'il est impossible et impensable que le Mashiach, celui qu'on attend, soit quelqu'un qui va nous être parachuté du ciel, un homme parfait, sans problème, un homme Dieu, un homme... C'est impossible parce qu'il ne pourra pas sauver le monde. Ne peut sauver le monde que celui qui vit les problèmes du monde. Un homme qui souffrira la souffrance du monde. Ça veut dire qu'il ressentira en lui, parce qu'il les vivra à son niveau, les problèmes du monde. C'est ce à quoi fait allusion le prophète Ésaïe dans le fameux chapitre 53 qui a été complètement falsifié et déformé par les maîtres de la farce. Quand le prophète dit que le Messie portera sur lui tous les malheurs du monde. Alors, On sait ce qu'eux, ils en ont fait. Mais l'explication est simple, les Juifs l'ont toujours eu. Celui qui doit sauver le monde est forcément celui qui vit les problèmes du monde. David doit ramener les enfants d'Hachem à Hachem et il vit le problème en ayant lui-même des enfants qui l'ont trahi pour qu'il ressente dans sa chair ce que signifie un père abandonné par ses enfants. Ce juste dont parle le Talmud était censé être un homme qui œuvre pour que Dieu retrouve sa maison. Qu'est-ce qu'a fait Hachem pour que tu ressentes ce que ça veut dire perdre ta maison? Il lui a envoyé les Romains pour lui détruire sa maison. C'est ça ce que dit Esaïe, pas toutes les fabulations qu'on a données en falsifiant les versets. C'est ça ce que dit Esaïe. Le Messie sera un homme portant en lui tous les problèmes de la génération. Et donc pas du tout ce que tout le monde imagine, même une grande partie d'entre nous, qu'il imagine le juste parfait, le type sortant de je sais quelle cuisse de Jupiter ou je ne sais quoi. Non. Un pauvre type venu des bas-fonds de ce monde, mais qui s'est construit à partir de rien pour devenir le Mashiach, comme il est dit, Ish Tsemar ou Mitarta Vitzmar, un homme qui pousse, mais qui vient des bas-fonds de ce monde. Comme a dit le roi David, mais Ashpot Yarimevion, tu m'as sorti des poubelles. Et c'est ce que disent, et je termine, nos maîtres en expliquant la différence entre David et Shaoul. Pourquoi Shaoul est tombé? Parce qu'il était trop parfait, c'est le début du cours. Et pourquoi David n'est pas tombé en ce sens de chute, drame? Il a fauté, mais pourquoi ça ne s'est pas terminé comme le roi David? Par rien. Parce que disent nos maîtres, David à quoi il ressemble? À quelqu'un qui avance en portant sur ses épaules un sac plein de pourriture. Et à chaque fois que ça lui monte un petit peu la tête, on lui dit, dis-moi, regarde ce que tu as sur le dos et rabaisse le caquet, mon vieux. Donc ça, c'est David, quelqu'un qui porte sur lui un sac rempli de pourriture. Et c'est ce qui le préserve de l'orgueil, et c'est ce qui lui permet d'être Mashiach. On s'arrête là pour aujourd'hui.